Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Tribune de la Presse de ce vendredi 26 juin 2009. Trois thèmes au menu de notre émission de ce soir, à savoir clôture hier jeudi de la réunion des gouverneurs à Kisangani dans la province orientale. Dans notre deuxième thème, nous parlerons du projet de construction pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Depuis mercredi dernier, un protocole d'entente de ce projet a été signé entre les deux gouvernements, c'est-à-dire celui de Kinshasa et de Brazzaville. Cependant, l'Assemblée provinciale du Bas-Congo s'y oppose. Et enfin, notre dernier thème sera consacré à la mutinerie suivie d'une tentative d'évasion dans la nuit du 21 au 22 juin dernier à la prison centrale de Mouzenze, à Goma au Nord Kivu. Bilan, deux morts et près de 20 femmes détenues violées. Comment améliorer la sécurité dans les prisons de la RDC? Et pour en parler ce soir dans notre émission, nous avons Jamel Bolam, rédacteur en chef, adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré, Dieudonné Mbouyi, rédacteur en chef du journal La Tempête des Tropiques, et Doska Kanindankole, éditeur du journal Le Millénaire, un mensuel indépendant d'information générale paraissant en Ituri et au Nord Kivu. Il est imprimé chez New Vision à Kampala, en Ouganda. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, voyons comment les journaux kinois ont titré et analysé les trois thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. Le journal de journaux avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. L'actualité cette semaine a été dominée par la conférence des gouverneurs des provinces qui s'est tenue à Kisangani en province orientale. À ce sujet, la tempête de tropiques précise que Joseph Kabila et le premier ministre ont communié avec la population pour montrer à cette dernière qu'ils sont en bon terme. Wuru de son côté note que pour une bonne implication dans l'effort de développement, Joseph Kabila moralise les gouverneurs des provinces. La prospérité annonce la mi-parcours de son mandat. Kabila jauge ses gouverneurs à Kisangani. Sans gagner. Autre sujet commenté cette semaine, c'est la signature d'un protocole d'entente sur la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. On annonce que la réalisation du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville est pour bientôt, en faisant allusion au Conseil des ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui s'est tenu à Kinshasa. Pour la référence plus, la route Kinshasa-Brazzaville vise l'intégration sous-régionale, mais elle aura des retombées sous le fonctionnement des deux ports de Boma et de Matadi qui sont les grandes sources de revenus sur l'économie nationale. Terminons cette revue de presse avec la mutinerie et tentative d'évasion à la prison centrale de Mouzenze à Goma au Nord Kivu avec comme bilan un mort, 6 blessés graves et 20 femmes violées. À ce sujet, le palmarès indique que la réforme pénitentiaire envisagée en RDC doit prendre en compte entre autres la gestion pénitentiaire et la prise en charge des prisonniers. Et pour sa part, le quotidien L'Avenir annonce que le gouvernement congolais devra faire mieux pour le fonctionnement de son appareil judiciaire. Cet appel note le confrère et membre du secrétaire général des Nations Unies qui a réagi au sujet des viols et tentatives d'évasion des détenus militaires à la prison centrale des Mouzenze à Goma au Nord Kivu.
Merci Samuel Kachak pour cette revue des presse. Jean-Mel Bolam, rédacteur en chef adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Oui, c'est une revue qui reprend le point saillant de l'actualité. C'est effectivement le point qui ont pu retenir l'attention des lecteurs et des journaux de la place. Ce sont des problèmes qui ont vraiment mérité d'être développés par la presse chinoise.
Merci Jean-Mel Bolam. Dieudonné Mbouyi, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Climat Tempéré. Non, la tempête de tropique, j'allais dire. Hormis ces trois thèmes que nous avons retenus ce soir, est-ce qu'il y a un autre sujet d'actualité dont la presse n'a pas fait vraiment mention dans ses colonnes?
Bon, il y a peut-être le décès de Michael Jackson, hein, que beaucoup de journaux n'ont pas évoqué, parce que c'est tombé peut-être un peu tard le soir, mais il y a quand même certains confrères qui en ont parlé. Mais bon, je pense que dans les éditions qui vont venir, certainement, les confrères ne manqueront pas d'évoquer cela.
Merci. Doska Kanindankole, vous êtes éditeur du journal Le Millénaire, c'est un mensuel indépendant d'information générale, paraissant en Ituri et au Nord Kivu, mais vous imprimez vos journaux à Kampala, en Ouganda. Dites-nous pourquoi vous traversez pour aller imprimer vos journaux.
Si le Fat Est n'a pas d'imprimerie, de Bukavu jusqu'à Haro, toute la bande n'a pas d'imprimerie, et les hommes d'affaires du milieu ne s'intéressent pas à ces domaines. On n'a que des petites rétrographies. Pour avoir un journal de qualité, il faut défendre en Ouganda. C'est par contrainte qu'on y va.
Et c'est quoi l'actualité aujourd'hui en Ituri?
Alors, l'actualité, c'est juste l'événement qui s'est passé à Kisangani. L'Ituri fait partie de la province orientale, hein, la province de Gouverneur a pris toute l'actualité. Il y a aussi cette affaire-là, depuis ces conflits qui sont à Maïgi entre les Ougandais et les Ougandais par rapport à Sandjuri, le territoire qui est disputé entre les deux pays.
Merci Joska Kaminda. Premier thème de notre débat de ce soir, clôture hier jeudi de la réunion de gouverneurs à Kisangani dans la province orientale. Les travaux de la première conférence des gouverneurs se sont achevés hier soir sous la direction du chef de l'État Joseph Kabila. Après les échanges sur les états des lieux des provinces, la conférence a formulé des recommandations sur divers aspects de la vie nationale. La plénière a aussi mis sur pied trois commissions, politique, administrative, culturelle, juridique et sécuritaire, la commission sociale, économique et financière, ainsi que celle de la reconstruction et développement. C'est ce qu'a confié à la presse le ministre de l'Intérieur et porte-parole de la conférence. Les explications avec vous, André Kikengé.
Les recommandations portent sur divers aspects, notamment politiques, administratifs, sécuritaires et juridiques. Le social ainsi que le développement ont également retenu l'attention des conférenciers. Sur le plan politique, la conférence a décidé le renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation ainsi que la suppression des barrières et toutes sortes de tracasseries. Du point de vue social, économique et financier, les conférenciers ont institué un ordre de paiement permanent auprès des succursales de la Banque centrale pour les dotations aux provinces. Concernant la reconstruction et le développement, la conférence des gouverneurs a annoncé le démarrage du programme de réhabilitation des routes de desserte agricole par l'organisation du système de cantonnage manuel sur les premiers 45 000 km sur l'ensemble du territoire national. La prochaine conférence des gouverneurs est annoncée pour le mois de décembre prochain à Bandaka, dans la province de l'Équateur. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Merci André Kitenge, Dieudonné Mbouyi, plusieurs recommandations issues de cette réunion. Est-ce que vous pensez que cela sera appliqué? Parce que très souvent, les recommandations chez nous au Congo, le fait reste souvent lettre morte.
Bon, laissons le temps au temps. Je crois que ce n'était qu'une première conférence des gouverneurs depuis que le chef de l'État a été élu et depuis que les gouverneurs ont été élus. Donc c'est une première réunion qui se tient. Bon, attendons voir peut-être l'année prochaine pour pouvoir faire peut-être une évaluation de ce qui sera fait par rapport aux décisions qui ont été prises à Kisangani.
Et vous, en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous attendiez de cette conférence des gouverneurs?
Pas vraiment grand-chose, hein, parce que, vous voyez, nous vivons dans un contexte post-conflit. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays, et le pays a une dimension d'un sous-continent, donc il y a beaucoup de problèmes. C'est difficile de résoudre tous les problèmes à la fois, mais je pense que il faut y aller plutôt par méthode. Donc je crois que c'est ce qu'on peut conseiller. Il ne faut pas trop embrasser, à la fois. Il faut plutôt y aller avec méthode pour pouvoir résoudre les problèmes selon les priorités.
Ok, Jean-Noël Bolam, à l'annonce de la conférence des gouverneurs des provinces, vous, dans votre rédaction, vous êtes attendu à quoi à la fin de cette conférence?
Ben, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Généralement, le Congolais, c'est un mauvais gestionnaire. C'est un excellent rédacteur de bonnes résolutions, mais dans l'application, rien ne se fait. Et compte tenu de la crise économique internationale qui n'a pas épargné le Congo, qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il est difficile s'attendre à de grandes choses. Mais c'est si le pouvoir, l'homme politique qui gère le pays, fait preuve de bonne volonté, fait preuve d'une bonne volonté politique, il peut faire quelque chose. Mais il faut d'abord manifester cette bonne volonté politique pour qu'il y ait quelque chose. Mais présentement, on ne doit pas s'attendre à grand-chose. On est dans la théorie.
Et la grande question sur la décentralisation est revenue encore une fois dans cette réunion. On a comme l'impression que c'est ça la grande préoccupation des provinces.
Oui, la grande question, c'est surtout les 40%. et 40% qui posent problème. Le pouvoir central demande aux provinces de se prendre en charge, de s'organiser, de se concevoir des programmes de développement. Et ce programme-là, pour le réussir, il faut réunir les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Mais lorsque le même pouvoir central qui a demandé aux provinces de s'organiser, de se prendre en charge, prive les mêmes entités de 40%, je me pose la question, avec quoi ces provinces vont s'organiser? C'est comme qui dirait, le pouvoir central veut le contraire, une chose de son contraire. On demande aux provinces de s'organiser, mais en même temps, on prive les provinces des ressources financières, des ressources nécessaires pour se développer. C'est une contradiction.
Jessica Kaninda, vous intervenez à partir de Kampala. Vous non plus, vous n'attendiez pas grand-chose de cette réunion des gouverneurs?
Au niveau de l'Ituri, beaucoup de gens s'attendaient à ce que la question des nouvelles provinces soit traitée. Parce que vous savez, l'Ituri a toujours aspiré à devenir province. Cette question-là n'a pas été apparemment traitée et les Ituriens attendaient ça. Il y a aussi, comme le confrère a dit, là, le problème de la répercussion de 40%. Là. Nous vivons en province, nous voyons les problèmes qui se passent ici. Il faut qu'on quitte la vision du Congo qui se livre à tout ça. Mais comment c'est possible, les provinces? Et les provinces vivent difficilement. Les ministres provinciaux, par exemple, en Somalie, n'ont pas de budget, n'ont pas de structure bien voulue parce qu'il n'y a pas de moyens. Les assemblées provinciales fonctionnent difficilement à cause de l'argent. Et que cette question ne soit pas clairement débattue. Oui, qui était un peu les intérêts en province par rapport à la survie des institutions qui sont sur place là-bas. Au niveau du renforcement de l'autorité de l'État et la question et les questions de la guerre ou les ministres qui investissent encore le territoire du Rumu, on aurait pensé que le problème du dialogue avec ces ministres-là soit aussi traité pour que la paix et pour ça le soit le
tourisme. Mais est-ce que cette réunion n'est-elle pas tombée à point nommé parce que en ce moment il y a divergence des vues entre le gouvernement central et les provinces, notamment sur la soutenir la source et les découpages territoriaux. Est-ce que ce n'était pas opportun d'organiser finalement cette réunion en ce moment?
La réunion était opportune parce que je suis sûr que le chef de l'État était au parfum des murmures, des lamentations de certains gouverneurs de province qui déjà commençaient à se plaindre de la non-rétrocession. Et donc, il a tenu à écouter, puis à prendre en compte les doléances des gouverneurs. Je crois que c'est vraiment opportun. Et je crois que si la prochaine réunion aura lieu au mois de décembre, c'est parce que, selon la Constitution, il est prévu au moins 2 réunions par an pour ce qui est la conférence de gouverneurs.
Ok, Samuel Bollam, est-ce qu'on peut espérer que cette réunion donnera une nouvelle impulsion aux gouverneurs pour le développement de leur province?
Oui, ça peut donner une nouvelle impulsion.
En attendant la prochaine réunion qui aura lieu au mois de décembre.
Exactement, parce que après cette rencontre qui s'est terminée hier, à celle de Mbandaka, ils seront appelés à évaluer ce qu'ils ont programmé. D'où la nécessité pour chaque gouverneur de s'atteler à faire quelque chose afin de pouvoir présenter la nouvelle situation de sa province. Il ne faut pas qu'il parte à Mbandaka en décembre pour présenter la même situation qu'il a présentée à Kisangani. Donc ils sont appelés à faire un effort. Mais pourvu, comme je l'ai dit, que le pouvoir central libère aussi les moyens financiers, les 40% pour les provinces, parce que c'est une des conditions, un des préalables pour permettre ce développement à la base.
Mais le gouvernement central est buté actuellement à plusieurs difficultés.
Oui, le gouvernement central est buté à plusieurs difficultés, c'est vrai. Mais le gouvernement doit aussi comprimer certaines dépenses de luxe que les hommes au pouvoir réalisent.
Qu'est-ce que vous entendez par dépenses de luxe?
Il y en a par exemple qui s'achètent des voitures de gros cylindres et qui consomment beaucoup de carburant. Il y en a qui font des voyages en Europe, qui dépensent de l'argent comme ils veulent. Cela ne peut pas permettre que les provinces puissent s'organiser, que le temps même puisse aussi réunir les moyens qu'il faut.
Est-ce que vous avez des preuves de cette politique sur Bel Bolam?
Avoir le train de vie qu'il mène, c'est une preuve. Les voitures à bord desquelles il se promène, c'est aussi une preuve. Cette insolence matérielle qu'il mène au détriment de la population.
Jusqu'à Kalinda, vous pensez aussi que c'est le moment de rétrocéder les 40% aux provinces?
Moi, je pense que c'est vraiment le moment parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je parle puisque de l'autre côté où j'ai voulu, il y a par exemple une commission qui a été mise en place pour dialoguer avec les miliciens. Mais cette commission n'a pas de moyens. Le conseil des districts n'apparaît plus sur les amusants maintenant de la territoriale. Il n'a pas le feu de fonctionnement. Les administrateurs des territoires n'ont pas de feu de fonctionnement parce que nous aurions pris. Alors vous voyez ces gens-là travailler dans une zone post-conflit qui doivent faire face à des situations de sécurité sans moyens. On demande trop à ces gens. Je pense qu'il était temps que le gouvernement central pense à envoyer quelque chose dans les provinces pour permettre que les administrateurs du territoire et les conseils des districts aient les moyens de faire leur politique aussi et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. J'ai l'impression que depuis tout le temps, au Congo, on a toujours fait confondu la classe politique et la vie des Kinshasa au pays. La classe politique vit bien, la vie des Kinshasa doit être charmée, et les provinces sont éligibles. Je pense que c'est le moment. Nous saluons la réunion. La réunion était opportune parce qu'elle permet aux gens de dire ce qu'ils pensent, que peut-être dans l'avenir, voire mais pour René Kouritouri, il est important que les administrateurs des territoires qui sont dans les zones de conflit aient les frais de fonctionnement.
Deuxième thème de notre tribune, projet de construction pont Routrail entre Kinshasa et Brazzaville. Depuis mercredi dernier, un protocole d'entente de ce projet a été signé entre les deux gouvernements. Cependant, l'Assemblée provinciale du Bas-Congo s'y oppose. Le pont Routrail sera bel et bien construit entre Kinshasa et Brazzaville. Le protocole d'entente de ce projet a été signé entre le ministre congolais du Plan et le ministre à la Présidence chargé de l'intégration régionale et du NEPAD pour le compte du Congo-Brazzaville. Olivier Kamitatou et Justin Balaï-Mego s'est dit satisfait de ce pas historique franchi qui permettra de faciliter la circulation des biens et des personnes. Olivier Kamitatou parle des impacts économiques de ce pont au micro de Berry Franklin Luchaka.
La RDC est une puissance économique qui se redéploie. Il ne faut pas avoir peur de notre poids politique et de notre poids économique, mais nous avons besoin de différentes forces avec nos 9 voisins. Une des forces sera précisément le pont Routrail entre Kinshasa et Brazzaville. Nous aurons également une voie qui ira de Kinshasa vers le Cameroun, vers l'Afrique de l'Ouest. Donc nous allons connecter l'Afrique. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux. Eh bien, il fallait aujourd'hui franchir le pas économique a été franchi.
Du côté de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, ce projet n'est pas bien accueilli. Pour son président François Kimassi, ce projet ne tient pas compte du développement de la RDC parce que causant la perte de certaines ressources issues de la nationale numéro 1 entre Matadi et Banana. François Kimassi est joint au téléphone par Jean-Désiré Kanyama.
Pour le Bas-Congo, si ce pont est fait et que les ressources nationales doivent transiter par Brazzaville et couper la route nationale que Matadi et Banana, la République démocratique du Congo perd en sécurité et en garantie. Les Congolais ne connaissent pas ça, ni ils connaissent pas l'affaire. C'est depuis longtemps que ça a commencé. Même le maréchal a laissé ça. Il s'est toujours opposé à ça. Je ne sais pas comment tout d'un coup les autorités accèdent à ça. Et les autorités du Congo ont peur de dire la vérité au peuple congolais. Mais je le dis, c'est une perte. C'est une faiblesse et la République du Congo paiera très cher, si tu le dis.
Jean-Mel Bolam, rédacteur en chef adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré, quels peuvent être, à votre avis, les enjeux de ce projet?
Bon, le ministre Olivier Kamitatou l'a dit tout à l'heure, que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'intégration régionale entre les pays d'Afrique centrale. Alors, lorsque nous voulons nous développer, nous devons entrer en contact avec les autres. Le contact entre nations permet de corriger certaines faiblesses et permet aussi de profiter des expériences des autres. Alors moi, je ne vois pas en quoi ce pont peut freiner le développement du pays. Parce qu'on parle des recettes. Les marchandises qui viendront du côté de Braza pour traverser le fleuve, je crois qu'elles ne passeront pas gratuitement. Il y aura des taxes à percevoir au niveau de l'entrée. Il en est de même pour les marchandises qui quitteront le Congo, Kinshasa pour aller à Braza. Au niveau de la barrière, on payera aussi la taxe. C'est comme les barrières qui se trouvent au Bas-Congo, Katanga, où on a serait des péages. Lorsque un camion quitte Kinshasa, il va vers Matadi. Au niveau de la frontière entre Kinshasa et Bas-Congo, les véhicules payent la taxe. Ce sont les recettes qu'on enregistre. Il en est de même que les véhicules qui viennent de Matadi ou du Bas-Congo pour Kinshasa paye aussi le péage. Ce sont les recettes qu'on arrive. Il en sera de même pour ce pont-là.
Mais est-ce qu'en construisant ce pont entre Outray et Kinshasa-Brazzaville, la province du Bas-Congo ne sera pas pénalisée?
Bon, le Bas-Congo peut-être pourrait être pénalisé, mais dans certaines mesures, c'est pour le développement national. Si nous pouvons faire la hiérarchie de l'intérêt, c'est d'abord l'intérêt national. Il y a d'abord le Congo dans son ensemble et une province. Les recettes que Kinshasa pourra enregistrer dans le cadre de ce pont-là pourront avoir des répercussions sur le Bas-Congo. Mais il ne faut pas oublier non plus que, selon certaines informations, le port de Matadi et du Bas-Congo sont le plus cher du monde. Les gens qui viennent avec leur machinerie partie de Matadi et de Banana, disent que les taxes sont plus chères par rapport à Pointe-Noire. Donc, on va alléger aussi les charges d'exploitation pour qu'il n'y ait pas une grande répercussion sur la consommation. Plus que la marchandise coûte cher, plus la taxe est très élevée, plus la charge, le prix de vente sera aussi élevé, et c'est le consommateur qui va supporter. Mais si ça peut diminuer la charge d'exportation, ça permettrait aux Congolais d'acheter des produits importés à bas prix. Et c'est pour l'intérêt de la population.
Dieudonné Mbouyi, vous êtes rédacteur en chef du journal La Tempête de Tropique. On vient de suivre François Kimasi, président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Il affirme que ce projet va insécuriser la RDC, non seulement économiquement, mais aussi politiquement. Est-ce que quelque part, il n'a pas raison?
Je donne entièrement raison à l'honorable François Kimasi. Pourquoi? Parce que il ne faut pas avoir projet. Pourquoi parler d'intégration régionale lorsque des milliers de Congolais sont expulsés comme des chiens des pays voisins? Prenons le cas de l'Angola. Il y a combien de Congolais qui ont été expulsés dans des conditions infrahumaines? Alors pourquoi se continuer à parler d'intégration régionale lorsqu'il y a des choses qu'on ne s'est pas encore dites entre nous Africains?
Et peut-être que ce point-là va rapprocher les peuples.
Mais non, parce que il y a un projet qui existe depuis longtemps. C'est le projet du port des bananes. C'est un projet de construction d'un port à eau profonde. Alors pourquoi ne pas finaliser ce port-là avant de penser à se rapprocher de Pointe-Noire? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on doit soulever. Je me rappelle d'ailleurs qu'au mois de mai, il y a le chef de l'État qui a lancé des travaux de la route qu'on appelle Banana Kasumbalesa. Alors, lorsqu'on lance ces travaux-là, et qu'en même temps, on se met à s'éloigner du littoral, parce que nous avons 37 kilomètres de littoral. Donc, c'est une aubaine, c'est une bénédiction que nous avons. Alors, apparemment, on cherche à s'éloigner du littoral pour aller vers Pointe-Noire. C'est inacceptable. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec la réaction du Bas-Congo.
Mais le port de Matadi est quand même assez vieux, non?
Bon, le port peut être vieux, mais il y a effectivement, c'est un port qui dont les infrastructures datent de l'époque coloniale. Bon, on peut le réhabiliter, et je me rappelle même.
Il faut de l'argent pour ça, il faut la RDC de l'argent pour réhabiliter ce port.
Tout à fait, il y a même des travaux qui avaient déjà commencé dans le cadre de la coopération avec la Belgique. Hein, on peut renouveler l'outil de travail. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque on cherche à s'éloigner du littoral et on veut plutôt privilégier ce pont-là, le pont qui va avoir certainement une incidence négative sur l'économie du Bas-Congo et même du pays dans son ensemble.
Merci. Joska Kanina Nkole, vous êtes éditeur du journal Le Millénaire. Quel est votre point de vue par rapport à ce projet de construction pont Outray entre Kinshasa et Brazzaville?
Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la part des choses entre les politiques et l'économique. Et sur le plan économique, je pense que ce port peut avoir un apport bienfaiteur dans le pays, dans la mesure où, pour arriver au port de Matadi, les grands bateaux doivent faire des transbordements dans les petits bateaux jusqu'à Matadi, qui peut faire des frais supplémentaires, comme l'a dit les confrères là. Alors qu'à partir de Pointe-Noire, il n'y aura pas ces frais supplémentaires, on peut prendre la route et arriver directement à Kinshasa. Ça jouerait sur les prix qui seraient bas et profiterait aux consommateurs. Quand la consommation est boostée, et l'économie aussi va en aller, il y aura des effets secondaires qui peuvent s'étendre jusqu'aux bases aériennes. Donc, il n'y a pas question que les gens aient peur de ça. Mais le problème qui peut se poser, c'est celui de l'opportunité de faire ça. Est-ce qu'il faut faire ces ponts-là alors qu'on peut aussi faire les ports, comme l'a dit le premier confrère. Est-ce que les ponts est moins cher que les ports? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait les ports parce que s'il faut faire les ports, et on fait les ponts parce qu'en faisant les ports, ça prendra plus de temps? Je ne sais pas, ça c'est au niveau des politiques qui décident de ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de peur à se faire, les effets indirects peuvent se faire. Mais il faut reconnaître aussi qu'en en ouvrant la voie vers Pointe-Noire, il y aura des obligations au niveau du Bas-Congo. Les ports de Matadi faisaient vivre des restaurants, des hôtels, des transporteurs, donnaient des recettes à la province. Quand ce port n'aura plus le même afflux de bateaux comme par le passé, il y aura des effets dans le fonctionnement de la province du Bas-Congo. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses au niveau politique et au niveau économique. Quand les choses sont moins chères à Kinshasa, c'est que malheureusement les fleuves n'est pas balisé. Si les fleuves sont balisés, nous aurons cette marchandise à moins cher dans tous les villages tout au long du fleuve, même vu que Kisangani, ça peut soulager les peines de la population dans une certaine mesure.
Et comment on peut concrétiser ce projet tout en préservant les atouts économiques du Bas-Congo?
C'est là qu'on dit, nous ouvrons ces ponts-là, et il ne faut pas qu'on soit là pour s'ouvrir à l'intégration, pour gober tout ce qui vient de l'extérieur. Nous devons être capables aussi de donner quelque chose. Après qu'on soit capable de donner quelque chose, il faut qu'au niveau de l'intérieur aussi, que l'État soit organisé pour que la production intérieure puisse sortir pour nous faire aussi des devises. Je pense que si au niveau du Bas-Congo, qui est une province agro-pastorale, on développe l'agriculture, on développe l'élevage, il y aura moyen de trouver des produits à retourner dans les pays de l'intégration, les Gabon, les Congo-Brazzaville et tout.
Jean-Luc Bolland, il n'y a pas de crainte à se faire quant à la construction de ce pont Routraille pour nos amis du Bas-Congo, nos frères du Bas-Congo.
Oui, d'accord. Mais j'aimerais d'abord revenir à ce que Didon a dit tout à l'heure concernant l'expulsion de nos compatriotes de l'Angola ou d'un autre pays. Ça, c'est la faiblesse du pouvoir. C'est la faiblesse du pouvoir, ce n'est pas la faute des voisins. Rappelez-vous à l'époque du maréchal Mobutu. Vous expulsez un ambassadeur zingois, Mobutu expulse aussi le vôtre. Nous avons des étrangers qui sont irrégulièrement chez nous aussi, qui font tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que le pouvoir en place fait? Il les laisse faire. Alors, quand nous avons nos compatriotes qui sont ailleurs, qui sont peut-être irréguliers, on les expulse. Ce n'est pas la faute de ce pays-là, c'est notre faute à nous. Bon, quand au pont vous disiez, j'ai dit que ça doit avoir un impact positif parce que ce pont-là a double voie de communication. Il y a la route, le véhicule, et il y a le rail pour les trains. Donc, je pense que même le déplacement pour aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville, les frais diffèrent d'une voie de communication qu'on va emprunter. Il y aura aussi un avantage là-dessus. Par rapport au bus immobilier ici, le ticket qu'on paye ici pour aller à Brazzaville, je pense que ça serait plus cher, plus élevé que la route. Généralement, le voyage par route coûte moins cher que par bateau ou par avion.
Donc, vous appréciez ce projet?
Oui, personnellement.
Le Tinri est suivi d'une tentative d'évasion dans la nuit du 21 au 22 juin dernier à la prison centrale de Mouvézé à Goma, au Nord Kivu. Bilan, 2 morts et près de 20 femmes détenues violées. Comment améliorer la sécurité dans les prisons de la RDC? C'est notre dernier thème de ce soir. À ce jour, la situation est restée calme dans cette prison. Le personnel pénitentiaire, les visiteurs et les organisations caritatives peuvent à nouveau accéder aux installations de cet établissement carcéral. Les autorités de la prison affirment que les investigations se poursuivent pour retrouver d'autres prisonniers impliqués dans cet incident. Gabriel Wamina pour les détails.
Ce mardi, un dispositif sécuritaire vient d'être mis en place par les déploiements d'une section des SRDC. Ces militaires viennent en appui aux éléments de la police nationale congolaise, dont jusque-là, l'effectif était très réduit. D'après les responsables de la prison, 23 détenus soupçonnés d'avoir commandité cette mitmerie ont été transférés lundi soir au cachot du bureau des renseignements militaires TD. 10 autres prisonniers soupçonnés d'avoir appartenu au noyau organisateur pourraient être transférés dans les heures qui suivent au même bureau des renseignements militaires. Tout compte fait, il n'y a pas eu évasion, indiquent les mêmes responsables. Les 833 prisonniers que compte l'établissement étaient présents lors du décompte effectué par les services pénitentiaires. D'autre part, les femmes détenues qui ont subi des violences sont seront prises en charge par l'inspection provinciale de la santé. Un médecin vient d'être affecté sur place pour soigner les victimes. Les responsables pénitentiaires sont formels. Ils affirment que les incidents survenus à la prison de Mouzézé sont les résultats du laxisme des autorités judiciaires. Ils argumentent avoir informé aux autorités compétentes de la présence des armes dans la prison dès le début du mois de mai dernier. Les détenus avaient en leur possession deux armes AK-47, trois pistolets, des grenades de type chinois, indique la police. Notons que le meurtre qui a eu lieu à la prison centrale de Mouzézé dans la nuit de dimanche à lundi a fait un mort du côté de la police nationale congolaise, au moins 6 blessés graves, une vingtaine de femmes violentées et plusieurs dégâts matériels.
Jusqu'à Kaninda, vous l'intervenez à partir de Kampala en Ouganda. Ce n'est pas la première meurtrie en RDC. Hein. On se rappellera, il y en a eu à Goma encore une fois, à Bukavu, au Sud-Kivu, à Bunia, dans la province orientale, et même à Kalemi, au Katanga. Comment peut-on expliquer ce phénomène?
Il y a deux manières d'expliquer ça. Il y a d'abord les conditions de vie des prisonniers, parce que ces prisons-là sont construites depuis le collège. On n'a jamais amélioré les capacités d'accueil. Il y a la promiscuité. Les gens, ils mangent très difficilement, donc ils peuvent être tentés de s'évader pour chercher à vivre un peu à l'aise. Il y a aussi cette manière de mélanger les détenus militaires et les détenus civils. Il y a des gens arrêtés pour des anciens militaires, des anciens soldats qui ont commis des crimes par-ci par-là, qu'on met dans les cachots. Il y a aussi les gens qui surveillent autour des cachots, nous avons vécu ça il y a quelques années à Beni, qui vivent aussi des prisonniers. Les mêmes militaires qui gardent les prisonniers les font sortir la nuit, ils font des cambriolages, ils rentrent en prison, ils se partagent les bitins avec les militaires qui gardent. Il y a tout un lot de choses que l'État doit essayer d'améliorer pour que ces prisonniers soient à l'aise. Et je pense qu'au niveau des instances judiciaires, il y a aussi la lenteur dans la décision. Il y a beaucoup de détenus qui ne sont pas condamnés. Quelqu'un qui est là, qui attend le jugement, qui est en prison, qui fait 6 mois, 7 mois sans que le jugement ne soit rendu. Tout ça, il faut qu'on passe au plein fin pour que le prison soit un peu allégé, que ceux qui doivent être condamnés soient en prison, et que ceux qui doivent être jugés soient jugés à temps pour qu'on sache s'ils sont libérés ou doivent être en prison.
Merci Jean-Mel Boulan. Jusqu'à Kaninda parle des conditions de vie des détenus dans les prisons, le fait de mélanger des détenus, des prisonniers militaires et civils sont à la base des tentatives d'évasion dans nos prisons en RDC. Vous êtes d'accord avec lui?
Effectivement, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui, parce que on ne doit pas mettre tous les détenus dans les mêmes conditions. Il y a par exemple des détenus délinquants, des délinquants primaires, qui ont commis des infractions, je ne sais pas, des infractions, il y en a qui ont commis des crimes. Comment vous allez mettre un criminel dans un même endroit qu'un jeune homme qui a commis un vol simple, qu'un jeune homme qui s'est bagarré avec un autre? Il n'est pas aussi dangereux que les criminels. Mais quand vous les mettez ensemble, il doit y avoir des problèmes. Et puis, notre ami a parlé de proximité. Vous prenez les femmes, vous les mettez aux environs des criminels. On doit s'attendre à de telles choses. Donc, il y a lieu que, comme l'a dit aussi le confrère, il faut aussi réformer le service pénitentiaire. Le service pénitentiaire est très mal géré. Les prisonniers, il l'a dit bien sûr, il y a des prisonniers qui passent des journées ou des jours sans manger. Et il doit se débrouiller. Moi, je me rappelle quand j'étais encore gosse, j'ai un ami, on avait un copain qui préférait être en prison qu'à la cité, parce qu'il dit que quand il va en prison, il rentre gros, il mangeait très bien.
Mais ce n'est plus le cas actuellement?
Non, absolument pas. Absolument pas. Le confrère a dit qu'il y a, à Goma, par exemple, il y a des militaires qui utilisent les prisonniers pour aller faire des cambriolages pour leur rapporter l'argent. Ce n'est pas normal, ça. On doit revoir ce système.
Et là, c'est la faute aux gardiens ou bien la faute aux responsables des prisons?
Aux responsables des prisons, parce que le gardien lui-même n'est pas bien traité. Il doit chercher un secours. Il n'est pas bien payé, il n'a pas d'argent, peut-être il a quitté sa maison, son enfant est malade, son épouse est malade, ils n'ont rien mangé. Et il vient, il trouve qu'il peut inventer un système pouvant lui permettre d'avoir de l'argent. Il utilise les prisonniers. Donc c'est la faute de ceux qui gèrent cette prison-là. Ils doivent mettre les gardiens à l'aise. Ils doivent réunir les conditions matérielles des gardiens. Même les prisonniers aussi. ils doivent être dans de bonnes conditions matérielles. Il y a ce qu'on appelle le droit de l'homme.
Merci Jean-Mel de Donné Mbouyi, rédacteur en chef du journal La Tempête des Tropiques. Nous venons de suivre dans le papier de Gabriel Wamenia, selon la police, les détenus avaient en leur possession deux armes AK-47, trois pistolets et deux grenades de type chinois. Comment expliquer que des prisonniers puissent être en possession d'armes et même des grenades dans une prison?
C'est la preuve que dans notre pays, les armes circulent comme des petits pains. Vous avez vu, par exemple, à travers l'opération qui a été organisée de récupération d'armes, qui a été organisée par le PAREC, vous avez vu le nombre impressionnant d'armes qu'on a pu récupérer rien que pour la ville de Kinshasa. C'est scandaleux. C'est pour dire que les armes, bon, elles sont à la portée de tout le monde. Hein.
Mais quand on est arrêté, il y a quand même un contrôle qui s'est fait, non? On ne peut pas entrer avec une arme en prison.
Oui, mais c'est comme l'a dit Bolland tout à l'heure. Il y a le système pénitentiaire de la RDC est vraiment un système qui
doit être réformé.
Qui n'est pas efficace, qui doit être réformé absolument. Parce que, vous voyez par exemple, pour la prison centrale de Makala, aujourd'hui, on parle évidemment de ce qui s'est passé à Goma.
À Goma.
Mais je pense que pratiquement dans la même période, on a vécu une situation presque pareille.
Oui.
À Bandalungwa. C'est pour dire que ce qui est valable pour Goma est valable pour les autres provinces aussi. Et donc, je pense qu'il faut absolument revoir le système pénitentiaire.
Et le revoir comment? Concrètement,
concrètement, il faut d'abord un budget conséquent. Il faut un budget conséquent parce que il est inadmissible qu'un prisonnier qui entre gros dans une prison et lorsqu'il en sort au bout de 6 mois, il a à peine 30 kilos.
Et d'après même nos sources, les budgets alloués au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa en 2008 étaient de 35 000 dollars, non, ce qui fait presque 17 francs congolais par jour pour un détenu. Avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire?
Justement, c'est pour dire que lorsqu'on entre dans une prison à RDC, c'est pratiquement dans un mouroir qu'on va.
Et sous d'autres cieux?
Sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas. Vous avez certainement...
On entre maigre, on en ressort encore?
Bien sûr. Donc, c'est pour dire que notre ministre de la Justice a du pain sur la planche. Il doit vraiment s'investir. Je sais qu'il est de la même famille politique que le chef de l'État, donc il est assez écouté. Il doit vraiment peser de son poids pour qu'il ait un budget conséquent, de manière à ce que nos prisons soient réorganisées, que nos prisons soient mieux équipées, au lieu qu'on puisse vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Donc c'est aussi une question d'homme.
C'est aussi une question d'homme. À la prison centrale de Makala, par exemple, j'avais souvent l'habitude d'y aller le week-end pour un peu voir comment les choses se font là-bas.
Mm-hmm.
Et donc, vous avez visiblement l'impression que l'effectif des militaires, des policiers qui sont en train de surveiller les prisonniers, d'abord, c'est un effectif insuffisant par rapport au nombre de prisonniers. Et puis, il y a un problème de surpeuplement dans les prisons.
Mmh.
À Makala, c'est scandaleux comme ce qu'on vit là-bas. C'est scandaleux. Et cela est valable dans pratiquement toutes les prisons du pays. Et donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer l'effectif. Et puis, il y a aussi le problème que mon compère Bolland m'a posé. Mmh. C'est celui de mettre les civils pratiquement aux côtés des militaires. Les militaires, les détenus militaires qui sont en même temps aux côtés des détenus civils, ça pose problème. Lorsqu'il y a une meute, on arrive toujours à des situations comme celles qu'on a déplorées à Goma.
C'est peut-être un manque d'infrastructure.
Bon, c'est justement cela. C'est un problème de... Bon, je suis content qu'on ait construit la prison militaire en Dolo. Oui. Mais ça tarde, hein, parce qu'on...
Avec l'appui de la MONUC.
Avec l'appui de la MONUC. Mais le transfert des prisonniers militaires qui sont en Makala vers cette nouvelle prison continue à tarder, je ne sais pas pourquoi.
Jean-Mel Bolland, est-ce que le travail ne devrait pas se faire aussi au niveau du Parlement?
Oui, le travail doit aussi être fait au niveau du Parlement, qui représente le peuple, qui a le devoir de transmettre les doléances du peuple. Je résume un peu sur l'incident qui s'est produit soit à Goma, soit à Kinshasa. Je prends par exemple le cas de Kinshasa. les prisonniers qui ont créé les incidents ce jour-là, c'était des prisonniers militaires. Mais ils étaient transportés à bord de quelles équipes? D'un taxi-bus. Le ministère arrive, il réquisitionne un véhicule d'un chauffeur privé, un civil, on lui confie des prisonniers. D'abord, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas le véhicule de l'armée, ce n'est pas un véhicule approprié pour transporter des prisonniers. Et on y met des prisonniers, conséquence, il y a eu des troubles en route. Le chauffeur ne sait pas si quel a été son sort. Tout ça, ce sont les mauvaises conditions de la gestion des prisonniers. On dit que la prison, c'est une maison de correction.
Uh-huh.
Mais comment,
de rééducation.
De rééducation et de correction. Comment rééduquer quelqu'un qui est dans de telles mauvaises conditions? Vous ne pouvez pas éduquer malade. Vous ne pouvez pas éduquer quelqu'un qui est sous perfusion. Vous allez l'éduquer. Vous allez l'éduquer comment? Il ne vous suivra pas. Il faut d'abord le mettre dans les bonnes conditions, dans les conditions matérielles, dans les conditions physiques. Et à ce moment-là, lorsque vous lui donnez, n'est pas la leçon de morale ou d'éducation civique, il vous suit. Mais vous le mettez affamé, vous le mettez dans... Il y en a qui sont même malades. Il y en a qui meurent dans les prisons. Et ces gens-là, comment ils peuvent suivre? Comment ils peuvent se corriger? Comment ils peuvent s'amender? C'est pas possible.
Alors, revenons au Parlement, Jean-Mel Volant.
Quant au Parlement, effectivement, le Parlement qui vit les réalités. Maintenant, les députés sont en vacances parlementaires. Ils doivent requérir toutes les informations pour la prochaine session, qu'ils puissent proposer des solutions à l'exécutif sur les situations qu'ils auront apprises, qu'ils auront vécues sur place pendant les vacances parlementaires.
Pour voter, par exemple, un budget conséquent.
Absolument, oui. Pour poser un budget conséquent. Parce qu'il y a certains secteurs auxquels on alloue un budget important. Il y en a d'autres dont on néglige le budget, tels que la santé, tels que l'éducation, le service pénitentiaire. Or, ce sont des services importants qui ont besoin de l'argent pour bien gérer les personnes, pour bien gérer les gens qui sont en prison, par exemple. Donc, il faut un budget conséquent. Quand on doit donner 17 dollars,
17
francs congolais, je ne sais pas si c'est par prisonnier ou
par prisonnier et par jour.
Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec 17 francs congolais? C'est pas possible.
Alors, Joska Kanindankole, vous êtes éditeur du journal Le Millénaire, c'est un mensuel indépendant d'information générale Paris-Saint-Ituri. Dites-nous quelles sont les conditions carcérales des prisonniers de Bounia? Est-ce qu'ils vivent les mêmes conditions qu'à Kinshasa ou à Goma?
Oui, les mêmes conditions. La prison a été d'ailleurs un lieu où on recevait les réfugiés. À l'époque, on a transformé en prison. Sa capacité d'accueil était de 220 personnes, mais on y loge plus d'environ 800 ou 1000 personnes. Vous voyez que c'est déjà beaucoup. Et en plus, il y a cette affaire qu'on a dit là des militaires. Moi, je voulais insister sur le nombre des magistrats aussi. Vous voyez, par exemple, à Bounia, 3 millions d'habitants du fait de Touri, on a 5 magistrats. Imaginez le nombre de dossiers qu'ils gèrent. Et ce qui fait que les détenus qui attendent le jugement peuvent faire 6 mois en prison sans connaître leur sort. Au niveau des juges militaires, il y en a 2. Et pour qu'on fasse un jugement, il faut qu'on attende des juges qui viendront de Kisangani et qui viendront de Kinshasa. Tout ça, ça mène une lenteur. Il faut qu'on garde les gens en prison, les gens qui se sentent innocents, qui font la prison 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, qui finissent par décider de partir. Il y a aussi cette affaire d'arrestation arbitraire. On a, après les troubles, on a été certaines personnes sans jugement parce qu'ils se souvenaient d'avoir été en complicité avec des milices. Ils sont dans les prisons. Ces gens-là, parfois, se sentent comme arrêtés inutilement et peuvent tenter de s'évader aussi. Donc, moi, je pense que, comme les conseillers l'ont dit là, l'État doit réformer le système pénitentiaire et l'État doit réformer aussi le système judiciaire. Le Congo produit plusieurs juristes chaque année. Je me demande pourquoi on n'utilise pas le nombre de magistrats pour essayer d'alléger la tâche et permettre à ce que le dossier soit traité à temps et que le fait qui doit venir en prison aille et que ce qui doit être libéré soit libéré. Donc, c'est un travail qui doit être fait au niveau du gouvernement central et qu'on donne les moyens comme l'ont dit nos confrères là, qu'on donne les moyens aux services pénitentiaires, mais aussi qu'on renforce la magistrature pour que ce soit rapide.
Merci Joska Kaninda, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La technique était assurée par Sylvain Matundu et la réalisation par Guy Maté. Au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Héroux, Guy Maté, Samuel Katchès, sous la coordination de Martin Sebujangwe. En leur nom, Kéline Couté vous souhaite un excellent week-end en compagnie de programmes de Radio Capi.
Thank you.